Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Au-delà des apparences, c'est aussi entrer dans le huis clos des couvents. Ces cloîtres où les laïcs ne pénètrent pas, ou en tout cas très rarement. C'est écouter ces religieuses qui s'engagent, souvent pour toute une vie. Et c'est entendre aujourd'hui pourquoi, quand on a 20, 25, 30 ans, on souhaite vivre en communauté avec d'autres sœurs pour un projet commun. Une poignée de jeunes sœurs de Boulor, dans le Gers, est partie tenter l'aventure en Ardèche, à Notre-Dame-des-Neiges. Et c'est Mère Anne, ici présente, qui nous donne de nombreuses clés de compréhension, qui nous raconte aussi d'ailleurs beaucoup la société du dehors. Mais déjà, comment s'est passée votre arrivée en Ardèche? C'était le grand saut dans l'inconnu? Et vous avez repris au pied levé la place d'une congrégation qui s'éteignait.
Alors nous, on est arrivés ici il y a 3 ans et demi, en 2022. Et on a pris le relais des frères trappistes qui étaient là depuis 1850, dans ce lieu de Notre-Dame-des-Neiges. Et des frères qui en fait, ont décidé d'arrêter leur vie monastique à Notre-Dame-des-Neiges parce qu'ils étaient trop fragiles, trop âgés pour certains, et puis surtout la communauté n'avait plus la force de porter un lieu comme celui que nous avons apporté, qui est un lieu vaste. Il y a 450 hectares de propriété, 22 000 mètres carrés de surface de bâtiment, enfin, en surface déployée, c'est vraiment énorme. Et puis beaucoup de visiteurs, beaucoup de sollicitations. Donc les frères ont décidé de quitter les lieux, ils ont fait appel à différents monastères pour savoir si l'un ou l'autre serait prêt à reprendre. Et donc nous étions à ce moment-là dans le Gers, à l'abbaye de Boulor, et c'est là que nous avons dit ben, on va aller voir, parce qu'on était en train de penser à prévoir une fondation. On avait eu pas mal de jeunes sœurs qui étaient entrées. Et donc c'est comme ça qu'on a atterri dans les montagnes ardéchoises et qu'on s'y est installé. Et donc nous y sommes maintenant, nous étions 8 à notre arrivée, et puis là on est une douzaine, et donc voilà, avec d'autres qui pensent à entrer. Donc une dynamique de vie qui reprend, mais dans un lieu dont nous sommes héritières, et nous sommes dans une grande reconnaissance, parce que je ne pense pas que la communauté aurait pu se développer comme elle s'est développée si nous n'avions pas pu bénéficier aussi bien des lieux que de l'héritage matériel et spirituel, sûrement, des frères qui nous ont précédés ici.
Pourquoi vous êtes-vous séparés de votre communauté de Boulor dans le Gers? Parce qu'elle était, elle aussi, une communauté jeune et ultra dynamique. C'était quoi votre ressort?
Alors, notre fondation, elle est vraiment dans le prolongement de l'élan de vie de l'abbaye de Boulor. Nous sommes en excellent terme avec nos sœurs de Boulor. Ce n'est pas du tout une fondation de séparation et de division. Simplement, bah, il commençait à y avoir plus trop de place. Donc, soit on faisait des travaux pour agrandir, soit on essaimait. Et on a choisi de plutôt partir dans une logique missionnaire, en fait, hein, de transmettre la vie en un autre lieu pour pouvoir rayonner ailleurs aussi et continuer à le faire à Boulor, bien sûr. Alors après, on peut se demander pourquoi dans des communautés comme Boulor et Notre-Dame-des-Neiges, il y a des jeunes aujourd'hui alors qu'il n'y en a pas ailleurs. Évidemment, c'est une question qui est une question qu'on nous pose très souvent. Je trouve que c'est un petit peu une question piège, parce que le danger de cette question, ça va être de donner des recettes qui sont très humaines. Évidemment, il y a quand même une grosse part qui appartient qu'à Dieu, hein, dans tout ça. C'est lui qui nous appelle. Moi, je me souviens, j'avais jamais entendu parler de l'abbaye de Boulor quand j'ai eu mon appel pour Boulor. J'habitais à l'autre bout de la France. Et c'est en confession un prêtre qui me dit bah, peut-être vous pourriez aller faire une retraite là-bas. Et j'ai eu la certitude à ce moment-là que c'était là que le Seigneur m'appelait. Je ne connaissais rien du lieu. Donc j'ai envie de dire, il y a quand même un moment, c'est lui qui décide. Vraiment. Voilà. Ensuite, c'est sûr qu'il y a aussi... alors après, il y a des lieux qui sont plus connus que d'autres. Donc humainement, on pourrait dire du coup que ça crée un phénomène de mode. Je crois que c'est un peu dangereux de raisonner comme ça. Et j'espère qu'évidemment, ce n'est pas ça qui motive les jeunes. Puisque les modes, ça tourne, on s'en lasse. Non, je pense aussi qu'il y a un certain nombre de points d'attention dans nos communautés, de critères qui sont aujourd'hui importants pour les jeunes. Voilà, encore une fois, je constate qu'il y a aussi d'autres communautés qui suivent ces points de vigilance, mais qui n'ont pas forcément d'entrée, donc on dit bien que ça ne fait pas tout. Mais dans ces points d'attention, bah, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ils recherchent quand même une vraie radicalité, donc des communautés qui ont gardé un certain sens de la tradition, et en même temps une vraie ouverture, une vraie audace, une vraie capacité à s'adapter, à être allier tradition et modernité. Donc je pense que ça, c'est un point qui me semble aujourd'hui important pour les jeunes et qui donc explique en partie le recrutement. Après, je pense qu'il y a aussi une notion de dynamisme. Un jeune, il a envie de donner sa vie pour être vivant, hein, en fait, dans le lieu où il va s'engager. Et donc c'est vrai que bah, cet élan, ce dynamisme, on dit les jeunes appellent les jeunes. Je ne sais pas si c'est vrai, peut-être en partie, mais je pense qu'en fait, c'est surtout la vie appelle la vie. Et donc, un monastère avec plus de jeunes, plus d'élan, plus de dynamisme, bah, on aura envie d'y aller parce qu'on va se dire, je vais être vraiment vivante si je vais là-bas. Et du coup, il y a quelque chose de très attirant de ce fait-là.
Pourquoi les jeunes réclament tant de radicalité, y compris à l'extérieur ?
Les jeunes aujourd'hui, je pense que les jeunes de tout temps veulent une certaine radicalité, dans le sens où, en fait, un jeune, il a envie, il sait qu'il n'a qu'une seule vie, et il a envie de la vivre à bras le corps. Donc il y a une certaine intransigeance de la jeunesse, c'est pas un scoop, c'est pas moi qui l'invente. Et d'ailleurs, ça fait partie des points qui sont à accompagner, parce que justement, avec le temps, bah, on gagne en humilité, parce qu'on se rend compte de nos pauvretés. C'est vraiment l'évangile de Jésus avec la femme adultère qui dit bah, que celui qui a jamais péché lui jette la première pierre, et ils partent tous en commençant par les plus anciens. Voilà, les plus jeunes, c'est ceux qui restent encore, parce qu'ils peuvent encore fanfaronner un peu en se disant « moi, j'ai envie d'y aller » et tout ça. Donc, c'est normal que les jeunes aient une soif de radicalité, une soif d'une certaine exigence. Si on donne sa vie entière pour une cause, ben, il faut qu'elle en vaille la peine. Donc on ne donne pas sa vie pour un projet au rabais, pour un truc un peu amoindri. Donc il ne faut pas avoir peur en fait, d'être assez exigeant avec les jeunes. Ils auront largement le temps après de se ramollir. Donc soyons d'abord assez forts dans l'exigence que nous leur proposons d'une vie à la suite du Christ. Et une vie à la suite du Christ, c'est nécessairement une vie radicale. C'est prendre sa croix et le suivre. Donc il y a quelque chose, enfin, le Christ a donné sa vie. Il ne nous a pas aimés pour rire, comme il dit. Donc en fait, on est là pour prendre notre vie au sérieux et leur proposer une aventure à la suite du Christ qui soit belle, qui soit sérieuse, qui soit profonde, qui soit engageante. Et ça, ben, ça motive, parce que c'est pas en fait en adoucissant les contours à l'infini, au point de devenir une espèce de masse informe, qu'on a envie de s'engager.
L'engagement, c'est une grande question à l'extérieur des couvents aussi. Il y a eu le Covid, c'est sûr, et depuis 2021, une sacrée recrudescence de baptême. Alors, est-ce que c'est lié à ce monde qui manque d'engagement, qui manque de cause, je dirais même plus, et qui offre des idéaux qui n'en valent pas la peine ou qui ne donnent surtout pas très envie très longtemps? Ou est-ce que c'est encore autre chose?
Je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'on arrive un peu au bout d'une société qui nous propose le plaisir, qui nous propose le confort, qui nous propose l'argent comme seul objectif et comme seul idéal. Évidemment, ça reste des biens désirables pour l'humanité, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est pas ça qui va combler notre cœur. Or, on a soif de plus que ça, puisqu'on a soif d'avoir un cœur effectivement comblé. Donc, il me semble assez cohérent avec l'idéal de la jeunesse, de voir aujourd'hui une certaine épuisement face à une société qui en fait est elle-même fatiguée d'être gavée de tout ce dont on a besoin. Et finalement, les jeunes aujourd'hui, ils nous disent « vous avez rien d'autre à nous proposer là ». Et il reste encore des lieux, et en particulier des lieux de foi, des lieux de conviction, où on leur dit « si, on a autre chose à vous proposer ». On a autre chose à vous proposer, et cette autre chose, c'est le message de l'Évangile, c'est la suite du Christ, c'est le chemin de l'amour absolu pour pouvoir vous donner et pour pouvoir avoir trouvé un vrai sens à votre existence. Donc, qu'on retrouve un nouvel élan aujourd'hui dans les demandes de baptême, dans les entrées en propédeutique ou au séminaire, et puis ensuite dans les entrées dans les communautés aussi. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est une tendance plus ou moins rapide, mais quand même assez nette, en tout cas dans l'Église de France. Et je pense que ce n'est pas pour rien que le pape Léon a décidé de venir en France maintenant, parce qu'on voit qu'il se joue quelque chose en France aujourd'hui sur le plan du renouveau de l'Église, même si ce n'est pas énorme par rapport à l'ampleur du chantier qui s'ouvre. Mais,
et du déclin.
Et du déclin. Et voilà, le déclin est immense et en même temps, le réveil est là. Est là, petit, certes, mais bien présent. Et là, il y a quelque chose de très beau et de très fort comme signe d'espérance, même si la suite appartient au Seigneur. Il nous prend au sérieux et il nous invite à tenir compte de ce par quoi il nous interpelle avec tout ça.
Incroyable que ce soit au moment où l'Église termine son enquête sur les abus sexuels et sur tout type d'emprise, que les baptêmes remontent en flèche et que de jeunes sœurs s'engagent. C'est quand même assez difficile à comprendre.
Alors moi, je pense qu'en fait, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas un lien très clair entre le renouveau que nous constatons aujourd'hui et le grand ménage qui a quand même été fait dans l'Église ces dernières années sur les problématiques d'abus, sur les problématiques de déviance, etc. Je pense que l'Église en France aujourd'hui est objectivement la seule institution qui a été aussi loin et aussi clairement déterminée dans la réparation et dans la prise de conscience, dans la prise de moyens concrets pour sortir de certaines déviances. Quand on voit aujourd'hui ce qui sort sur le parascolaire en région parisienne et partout maintenant, on se dit ben, le ménage, on est peut-être finalement les premiers à l'avoir fait sérieusement. Et là, je me dis, ben, si l'Église redevient une maison sûre, redevient un lieu où on ose dire les choses, mais il n'est pas tellement étonnant que du coup, il y ait des personnes qui disent, eh bien alors, je vais rentrer à la maison. Et qu'ils reviennent vers le Christ, qui demande le baptême, qui s'engage. Voilà, l'Évangile est quelque chose de neuf. Et en plus, et puis, il y a un autre élément qui me semble intéressant par rapport au renouveau de l'Église aujourd'hui, c'est que on est arrivé à un stade de déchristianisation en France qui est suffisamment prononcé pour que les gens aient finalement beaucoup moins d'a priori. Ils ne connaissent plus, ils ne sont plus baptisés ou alors ils l'ont été encore vaguement par tradition quand ils étaient petits, mais ensuite ils n'ont rien reçu de plus. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant parce que moi, je le vois comme religieuse, il y a encore peut-être 10 ans, quand je sortais dans la rue, il y avait régulièrement des gens qui se moquaient, qui faisaient des commentaires. « Ah, la bonne sœur » ou je ne sais pas quoi. Bon, ce n'était pas méchant et agressif la plupart du temps, mais ce n'était quand même pas agréable ni vraiment bienveillant. Aujourd'hui, soit ils sont juste intrigués parce qu'ils n'en voient jamais, donc ils ne savent pas vraiment ce que c'est, soit ils sont plutôt bienveillants, globalement. En tout cas, ils nous disent bonjour. Alors, ils ne savent pas comment nous parler, donc ils nous disent bonjour madame, ils ne nous disent plus bonjour ma sœur. Mais il y a quand même une forme de bienveillance. Et puis après, on voit aussi beaucoup de musulmans qui, pour le coup, sont vraiment bienveillants, parce que c'est un peu, voilà, on est entre frères. Voilà. Alors, pas tous, évidemment, mais quand même, globalement, moi, je trouve qu'il y a finalement moins d'animosité. Bon, aussi parce que finalement, nous sommes petits. Aujourd'hui, l'Église, elle est petite, elle est pauvre. Et en fait, c'est comme ça qu'elle est appelée à être par le Christ. Et donc, c'est comme ça qu'elle va trouver sa plus grande fécondité. Là, maintenant, on ne peut vraiment plus imaginer que l'Église soit une grande puissance, en France en particulier, c'est hors sujet. Ni sur le plan des idées, ni sur le plan de l'impact démographique. Et en fait, c'est peut-être là qu'elle va être la plus forte.
Merci beaucoup, sœur Anne. Et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ce dialogue assez passionnant pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des couvents, qui en dit long également sur ce qui se passe dans notre société extérieure.